le comprendra. On va faire comme d'habitude le premier pasouk de la paracha, Aïkev. Le pasouk dit la chose suivante, il dit Ve'aya Aïkev Tishmeoun. Donc là c'est les brachot, des grandes brachot dans la paracha cette semaine. Vous savez, depuis le... Rappelez-vous ce que je vous dis il y a deux semaines, que la parasha, le Chumash Devarim, dans son intégralité, a été dit par Moshe Rabbeinu en 5 semaines. En 5 semaines. Et donc, dans la parasha Devarim et la parasha Va'etranan, Moshe Rabbeinu a tout d'abord réprimandé le peuple juif sur l'histoire des explorateurs. Et après, dans la parasha Va'etranan, il aura raconté en long, en large, avec tout le décor, l'histoire des 10 commandements. D'accord? C'était principalement la parasha Devarim, la parasha Va'etranan. Et là, dans la paracha Ekev, Moshe Rabbeinu leur promet de grandes brachot, au nom de Dieu bien sûr, s'ils vont suivre le chemin de la Torah. C'est là qu'on a des brachot extraordinaires. Et d'ailleurs, on reprend très souvent ces brachot-là. Ve'aya, donc le verset il dit comme ça. Ve'aya Ekev Tishmeun. Et ça, donc, je vais traduire d'abord littéralement, après on va expliquer. Donc Ve'aya, et ça sera Ekev Tishmeun. Et Ekev, ça veut dire plusieurs choses en français, en hébreu. Ekev, ça veut dire si vous allez écouter. Ça veut dire aussi à la place du fait que vous allez écouter. Donc ça veut dire en contrepartie du fait que vous allez écouter. C'est un terme qui est un peu bizarre, le terme Ekev. Qui est un peu particulier. Rashi va s'arrêter dessus. Et un mishpatim aele. Donc si vous allez garder ces mishpatim, ces lois que je vous ai données, parce que là on est déjà après le don de la Torah. Ushmartem va'asitem otam. Et donc vous allez vous en préserver et vous allez les faire. Donc bien sûr on fait appel à quoi ici? Se préserver et faire, d'après vous. Préserver. On dit vous allez vous préserver et vous allez les faire.
Préserver des mitzvot.
Préserver. Préserver de quoi? De quoi? Très bien. Quand on dit Ushmartem, Shmartem, c'est quoi Shomer en hébreu? C'est un surveillant, c'est un gardien, préservé. Donc de quoi on se préserve des mitzvot?
Négatives.
Négatives. Et va'asitem otam, vous les ferez, de quoi on parle? On parle des mitzvot positifs. Donc si vous allez vous préserver de faire les mitzvot négatives, et vous allez faire les mitzvot positives, alors pareil, Veshamar Hashem Elokecha Alecha, donc Dieu va te garder, il va préserver, et ta berit, l'alliance, va être ta chesed et la bonté, Hashem Nishba la votecha qu'il a juré, la votecha à tes ancêtres. C'est-à-dire comme ça, nous on va faire deux choses, ça va être deux plans. Nous, on va faire les mitzvot. Tout d'abord, on va se préserver de faire les mitzvot négatives. Et on va faire les mitzvot positives. Et c'est quoi la bracha? La bracha sera sur deux plans. Premièrement, Dieu va se préserver de ne pas toucher aux promesses qu'il a fait à nos ancêtres. Pour nous, il nous a donné des promesses. Donc il dit, bon, je touche pas. Il va se préserver. Et à part ça, comme on verra dans les versets suivants, Akadosh Baruch Hu donnera diverses brachot, il enlèvera les maladies, etc. Tout ce qu'on veut. Alors, on va faire Rashi. On va faire Rashi. En gros, le premier Rashi de la page 453. Donc, je dis, bien sûr, ce qui dérange Rashi ici, c'est quoi? C'est le terme Ekev, qui est un terme inhabituel. On ne dit pas Ekev. Je veux dire, c'est la première fois dans la Torah qu'on le voit. On ne trouve pas ce terme-là.
Ekev, ça veut dire?
Bah, Ekev, on expliquait, ça veut dire à la place de. C'est pas seulement ça. D'accord? Aïkev, en hébreu, ça veut dire aussi, normalement, Aïkev, on dit après qu'on a fini quelque chose. Alors que là, dans le pasouk, on a l'impression que c'est constant, que tant que tu vas garder les mitzvot, Dieu il te donnera. Enfin bon, grammaticalement, il y a des problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, Rashi, il nous amène le Midrash, qui dit qu'en vérité, pourquoi la Torah a modifié, par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Comment on dit dans le, c'est quoi le deuxième paracha du schéma? Il y a le premier, c'est schéma, et le deuxième, c'est quoi? Ve'haya. Ve'haya im shamoa. D'accord? Ve'aya im shamoa tishmeu al mitzvotai. Donc là, notre paracha, comment elle aurait dû commencer? Ve'aya im tishmeun. Vous voyez? Le im, c'est un peu comme le ekev. Donc là, ici, on a eu, vous voyez, c'est pour ça que je vous donne l'exemple du schéma, pour dire que là, il y a vraiment, il y a un problème. Surtout que le ve'aya im shamoa, il est dans quel paracha?
Juste avant.
Juste après. Juste ekev, avant. Là. Non. Non. Ve'etranan, c'est le schéma.
Ah oui.
Le ve'aya im shamoa,
ah,
il est dans le chichi, la paracha de semaine.
D'accord.
D'accord? Alors, dans la même paracha, on dit Ve'aya im shamoa tishmeu. Et là, tout d'un coup, au début, tu dis Ve'aya aikev tishmeu. Vous voyez la question? Ça dérange Rashi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On comprend que la Torah va nous faire passer un message caché. C'est-à-dire qu'il y a une manière de s'exprimer normalement. Et tu vas utiliser un terme qui est jamais utilisé. D'accord? On va comprendre ce que tu veux dire, mais c'est inhabituel. Pourquoi tu le fais? C'est pour faire ce qu'on appelle une dracha. Une dracha, c'est-à-dire que la Torah te donne un signal ici pour te dire « Attention, je veux que tu comprennes quelque chose entre les lignes. » Ça veut dire que du fait que je ne me suis pas exprimé normalement, d'ailleurs tu le verras par la suite si tu l'as vu avant, c'est pour te faire comprendre un message. Alors quel message? Pour te faire comprendre un message particulier avec le mot Ekev. Ekev en hébreu, ça veut dire quoi? Ekev, je viens de vous dire, ça veut dire à la place de, ça veut dire donc si vous allez garder les mitzvot. Mais Ekev, ça veut dire aussi un talon. Ah.
Ouais.
Comme Yaakov. Quand? Pourquoi Yaakov, on l'appelait Yaakov?
Il a attrapé.
D'accord? Parce que lorsqu'il sortait, il a attrapé.
Il a retenu.
D'accord? Il retenait le talon de Esav. Donc on l'a appelé Yaakov. D'accord? Yaakov, ça veut dire celui qui va attraper le talon. Donc Ekev, ça veut dire quoi? Ça veut dire également le talon. Donc Rachid nous dit certainement qu'ici, si la Torah a choisi d'employer le terme Ekev à la place du terme Im, le terme standard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu prends un thème qui est inhabituel. On comprend ce que tu veux dire, mais c'est un thème qui est inhabituel. Mm-hmm. C'est que la Torah veut nous faire passer un message autour du terme Ekev, autour du terme talon. Quel rapport entre les mitzvot et le talon? Rachid va expliquer. Donc, c'est un message, c'est un jeu de mots. Vaya Ekev Tishmeun. Im a mitzvot kalot, sha'adam dash beigvav Tishmeun. Qu'est-ce qui veut dire le verset? Le verset il dit Vaya Ekev Tishmeun, ça veut dire quoi? Si les mitzvot qui sont calottes, c'est les mitzvot qui sont légères. C'est les mitzvot qui sont légères. Alors, écoutez bien ce que Rachid dit. Les mitzvot, celles qu'on piétine avec son talon. Et c'est de ces mitzvot que le verset y parle. Bien sûr, caché. Tu vois clairement. Quand il dit Vaya Ekev Tishmeun, c'est-à-dire bien sûr si vous allez garder les mitzvot. Mais pourquoi il emploie le terme Ekev? C'est pour dire, si vous allez garder les mitzvot, c'est de quelles mitzvot je parle, particulièrement des mitzvot qu'on piétine tous les jours. Est-ce que vous avez un exemple de mitzvot qu'on piétine tous les jours?
Ah, il y en a
plein. Hein? Des mitzvot légères.
C'est pas une mitzvah.
Non, il y a besoin d'embrasser la mitzvah, non.
J'ai besoin de vous. Une mitzvah qu'on pourrait...
Tous les jours.
C'est d'accord.
Hein?
C'est d'accord.
C'est mitzvah... Non, mais ça, c'est pas une qu'on piétine, ça. Non, c'est d'accord.
Nous, peut-être qu'on peut négliger.
C'est bien, la Shonara.
Non, mais c'est pas une mitzvah. Ne pas dire la Shonara, c'est pas une mitzvah.
D'accord, mais ça fait partie des mitzvot. Non, on a eu les deux.
Ah,
il y a plusieurs mitzvot. D'accord, il y a principalement la Gemara Brachot, elle cite trois mitzvot, trois choses, qu'il n'y a pas une personne qui trébuche pas dessus une fois par jour.
Uh-huh.
Trois mitzvot, écoutez bien. La première, c'est la Shonara. Alors, attention, dans la Shonara, il y a différentes catégories. Il y a la Shonara et le Avak la Shonara. La Shonara, c'est vraiment la mauvaise langue. Quand je parle mal sur quelqu'un. Bon, ça, il y a des jours où on parle pas mal. Mais il y a ce qu'on appelle Avak la Shonara. C'est la poussière du Lashon Hara. Ça, c'est interdit par les Chachamim, pas par la Torah. C'est quoi la poussière du Lashon Hara? Je vais un exemple. Par exemple, imaginez-vous que il y a Avner qui est là, et qu'il y a quelqu'un ici, il y a Monsieur Reuven qui n'aime pas Avner, hein, Chas v'Shalom. Et moi, devant Monsieur Reuven, je vais dire du bien d'Avner. Maintenant, Monsieur Reuven, il va rien dire, mais dans sa tête, il va se dire, ouais... Bon, ça veut dire, qu'est-ce qu'il raconte, ça veut... Mais il dit rien, attention, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être prononcé. Mais le fait que moi j'ai dit du bien sur lui, ça a fait qu'une autre personne a pensé du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, avec la Shonara, vous comprenez qu'on peut arriver, c'est très facile. Vous dites un compliment. Mais ce compliment, peut-être qu'il va entraîner que... Ça c'est avec la Shonara, c'est interdit par les Chachamim, en tout cas quand on est en connaissance de cause. Ça c'est écrit qu'il n'y a pas un jour où on tombe là-dessus. D'accord? Enfin en tout cas où c'est pas en dessous de mes pieds quoi. Après bon, si tu fais attention où tu marches, bon, tant mieux. Non, c'est pas tellement, il faut faire attention, on fait ce qu'on peut, mais bon, c'est quelque chose de très très dur. Deuxième chose c'est quoi? Ayun Tfila. Vous savez que quand on lit la Tfila, on a l'obligation de comprendre la traduction de ce qu'on lit. Et pas que l'esprit ne s'échappe pas. Est-ce que tout le monde peut assurer qu'il n'y a pas un mot de la tefila dans lequel son esprit s'est échappé?
C'est un commandement, ça, de se comprendre?
Non, c'est pas un commandement. C'est un commandement que si on... Enfin, c'est ma question. C'est un commandement que si... Le commandement est le suivant. Si quand on a besoin de quelque chose, il faut prier. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Donc aujourd'hui, on a tous besoin de quelque chose. Quand on a besoin, c'est-à-dire si on n'a pas besoin, la mitzvah de prier, c'est que des chachamim. Mais si on a besoin de quelque chose, à ce moment-là, la mitzvah devient minatora. On avait dit une fois, c'est que le rabbi disait que comme aujourd'hui on a tous besoin de Mashiach, on voit le monde aujourd'hui, il est pas stable. Donc quand aujourd'hui quand on fait l'amida, c'est une amida qui est minatora. Bon, ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est quoi? Bitul Torah. Normalement, la mitzvah, c'est que quand on a un instant de libre, et qu'on n'est pas, je veux dire, en train de se reposer pour prendre des forces, etc. Dès qu'on a un moment de libre, on doit étudier la Torah.
Le loisir,
c'est d'accord. Non. Attention. Si une personne prend des forces pour étudier, c'est une chose. Mais bon, on prend pas des forces 8 heures par jour. Donc, Bitul Torah, c'est une des choses que il n'y a pas un jour on tombe pas dessus. Donc c'est ça, c'est de ces mitzvot qu'on parle. Bien sûr qu'il faut garder toutes les mitzvot, mais mention particulière pour les mitzvot, pour les mitzvot que je relis dans les mots. Ima mitzvot kalot shadam dash beigvav tishmaun. Que Dieu nous demande, il dit faites attention particulièrement aux mitzvot qui vous ont l'air légères. Il y a des mitzvot qui nous ont l'air légères qu'on croit, mais bien sûr c'est facile, c'est rien ça. Alors quand tu commences à les faire, tu vois que c'est très très dur. Tu vois que c'est très dur et au contraire, c'est sur ces mitzvot qu'on trébuche le plus. Vous savez ce que le Midrash il raconte sur ça? Le Midrash il raconte, il dit que le roi David n'avait pas peur des mitzvot chamourot, des mitzvot qui sont sévères, des mitzvot qui sont dures. Il dit ça, c'est sûr qu'on les fait. Un petit le Shabbat. Ouais, c'est évident qu'on fait Shabbat. D'accord? De quelle mitzvot il avait peur? Il avait peur de ces mitzvot que le pasouk est en train de parler ici, des mitzvot qu'on piétine avec nos pieds.
Qu'elles sont plus difficiles aussi.
C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a dit dans Tehilim, dans le psaume 49,
on néglige.
D'accord? Il a dit, c'est pas qu'on néglige, c'est qu'on est tenté de négliger. D'accord. Il a dit dans le psaume 49, il dit Ravon Akeva Yesu Beni. Il dit la faute de mes talons m'entoure. Ouais, maintenant on comprend ce qu'il veut dire. Psaume 49. D'accord? Ça veut dire quoi la faute de mes talons? Ça veut dire que ce qui l'angoisse. Quand il dit entouré, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui le hante. Ce qui l'angoisse, c'est pas les mitzvot difficiles. Par exemple, faire kippour, faire shabbat, etc. C'est facile, ça c'est évident qu'on fait. Il a été éduqué dedans, il est né dedans, il les fait. Mais les mitzvot faciles, celles qu'on piétine, il dit ça, c'est Yesu Beni, ça m'entoure constamment, parce que constamment je suis en train de faire attention de pas trébucher. D'accord? Ça c'est le midrash qui raconte. Oui, non, le problème n'est pas ici sur dévaloriser. Le problème c'est qu'on piétine la mitzvah et que, bon, malheureusement.
Je comprends qu'elle n'est pas si
importante. Oui, alors justement. Ouais. Alors, Rabbi pose la question suivante. Il dit, a priori, quand on réfléchit un petit peu à ce qu'on vient d'expliquer, a priori, on a une question. De quoi le roi David avait peur? Tu me dis, le roi David avait peur des mitzvot qui étaient légères, des mitzvot qui étaient faciles. Et je comprends pas, il pose une question très simple. Mais est-ce que c'est possible qu'un tzadik comme le roi David ne faisait pas attention d'accomplir même une des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu? Je veux dire, si tu me dis ça sur quelqu'un de standard de la rue, bon, je comprends. Là, on parle pas de n'importe qui, on parle du roi David. Vous savez que chez nous, en tout cas à l'époque du roi David, les rois étaient des tzadikim, c'était pas simplement des gens qui ont pris le pouvoir. Comment peut-être sur le roi David que le roi David disait « j'ai peur de trébucher sur la petite avérante ». Mais je comprends pas, mais le roi David, c'est évident qu'il fait attention, c'est évident qu'il fait attention à toutes les mitzvot. Qu'il fait attention à toutes les mitzvot, et que c'est évident qu'il va pas tomber. De quoi le roi David disait? Alors, il y a deux choses. D'abord, il disait Avon Akeva Yesu Beni. Apparemment, il parle d'une faute qui l'entoure. Il y a une faute qui m'entoure, mais comment il dit? D'accord? C'est pas seulement ça, vous savez, même la grande faute qu'on connaît du roi David. La faute, celle qu'on connaît, tout le monde dit, la faute avec Bathsheba. La Gemara Brachot, elle dit clairement, elle dit que celui qui dit que David a fauté avec Bathsheba, c'est des mots très durs. Parce qu'en vérité, il a pas fauté. Explique là-bas. D'accord? Ça veut dire qu'on parle de gens qui ne fautent pas. Enfin, de gens qui ne fautent pas. Alors, comment on peut dire que le roi David, il dit, la faute de mes talons m'entoure, je fais très attention à ça? On arrive à comprendre ça sur quelqu'un de normal, mais on a du mal à comprendre ça sur le roi David, sur un tzaddik. Et la réponse que le rabbi explique, c'est la suivante. Écoutez bien, une réponse très très intéressante. Il dit, on ne parle pas ici le roi David, il n'a pas peur que peut-être il va pas accomplir la mitzvah, parce que c'est évident pour lui qu'il va accomplir la mitzvah. C'est pas de ça qu'il a peur. On est d'accord, vous me suivez? Encore une fois. Le roi David n'a pas peur de ne pas accomplir la mitzvah. C'est évident qu'il va l'accomplir la mitzvah. Toutes les mitzvahs, c'est quoi cette histoire? Bien sûr qu'il va l'accomplir. C'est pas de ça qu'il a peur. Il a peur de rentrer dans un système. Et ça, c'est quelque chose qu'on tombe tous dessus. Et là, même les tzadikim sur ça, ils peuvent tomber. Il a peur d'entrer dans un système dans lequel on donne des points aux mitzvahs. D'accord? C'est pas seulement priorité. C'est que tu fais toutes les mitzvahs. Bien sûr que je fais toutes les mitzvahs. C'est évident, c'est ça la question que je reviens, mais c'est pas possible. Le roi David, il fait les 613 mitzvot, tout ce qu'il doit faire, il fait, c'est évident. La réponse est là, non. Le roi David n'a pas peur de ne pas accomplir les mitzvot, c'est clair qu'il va les accomplir. Mais il a peur de rentrer dans un système dans lequel on commence à donner des points aux mitzvot. Vous savez, on vit dans un système dans lequel on donne un point à tout ce qui est autour de nous. Par exemple, vous savez, psychologiquement, chaque personne qui est autour de nous, on lui donne des points. Il y a des gens qui nous ont l'air plus intéressants, moins intéressants, sans qu'on le veuille. Notre cerveau, il donne des points à tout ce qui nous entoure. Vous êtes d'accord? D'accord? 1000 points. Merci. Ça va, tu serais. C'est vrai qu'il faut travailler. Parce que... Mais bon, ma femme et mes enfants l'ont demi.
Au moins.
Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on donne des points. Tu veux? Et c'est ça qui parle au roi David. C'est ça ce qui fait peur au roi David. D'accord? C'est qu'il a peur de rentrer dans un système dans lequel une mitzvah lui paraît plus importante que l'autre. D'accord? Quelle mitzvah, par exemple, peut vous paraître moins importante qu'une autre? Voilà, je vais vous donner un exemple. On va prendre le Shabbat, et on va prendre... On va prendre le Shabbat et la Mezouza. Hein? Qu'est-ce qui vous paraît plus important? D'accord.
C'est évident.
C'est ça le problème.
C'est qu'il n'y a pas vraiment une priorité, pas une priorité, parce que quand même, Dieu l'a dit, pour certaines choses, c'est à la peine, pour d'autres choses, c'est de trouver. Et qu'il y a forcément un lien de, quand même des niveaux.
Ah, justement. Ça, c'est le problème, écoutez bien. Ça, c'est le problème numéro 1 que le roi David avait peur. Bien sûr qu'il va faire toutes les mitzvotes. On parle de quelqu'un ici qui fait toutes les mitzvotes, enfin, il fait ce qu'on lui demande. Bon, traditionnel, religieux, il fait ce qu'on lui demande. Il fait des mitzvotes. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il rentre dans un système dans lequel il commence à prioriser les mitzvot. Il commence à donner des points. Il dit, bon, cette mitzvot est importante, cette mitzvot est moins importante. Et si on suit les règles de la logique, il a raison. Il a raison. Des mitzvot plus importants que d'autres. C'est vrai. Il a raison, Yonel. C'est que si tu suis la logique, il y a des mitzvot qui sont plus importants que d'autres. Tu prends par exemple Shabbat et Kippour. Voilà, vous avez donné l'exemple. Kippour, c'est plus important. Mais si tu suis les règles de la logique, c'est plus important. Et c'est ça le piège dans lequel... D'accord ? Exactement. C'est dans ce piège-là que le roi David ne voulait pas tomber. Parce que le roi David, à son niveau, il voulait dire que moi, je dois arriver à la conclusion que toutes les mitzvot font partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, et alors, il y a un principe très important quand on parle de volonté. Je ne sais pas si on aura assez de temps à expliquer, mais bon, je vais expliquer en 2 minutes. D'accord ? Un concept de volonté. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre quelque chose qu'on veut et quelque chose qu'on comprend qu'on a besoin ? Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous avez compris.
C'est comme le fait,
d'accord. Imaginez-vous que vous avez compris que vous devez acheter un produit. D'accord, voilà. Imaginez-vous, j'ai compris, j'ai besoin d'acheter un ventilateur. Bon.
Un besoin.
Donc c'est un besoin. Je dois acheter un ventilateur. Ben, d'accord. Voilà, monsieur Michu, il a éteint. Je dois acheter un ventilateur. Maintenant, moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais acheter un ventilateur. Voilà, il faut que ce soit un ventilateur de telle marque, telle puissance, etc. J'arrive au magasin, il n'y a pas celui que je cherchais, il y en a un autre. Moins fort, plus fort, mais pas celui que je voulais. Je le prends quand même. Pourquoi je le prends quand même? Parce que je voulais pas un produit spécifique. Je voulais pas. J'avais un besoin. Ça a démarré d'un besoin. Donc puis ça a démarré d'un besoin. Je réfléchis. Qu'est-ce qui peut servir le mieux mon besoin? Pareil, tu vas en vacances. Tu veux quelque chose. Tu vas chercher une maison. Tu veux une même. Bon, tu veux pas. T'as besoin d'un endroit où mettre. Donc tu vas chercher. Bon, tu vas chercher. On va te proposer une voiture, une maison. T'as besoin d'une voiture. Bon, tu vas demander. On va te donner ce qui correspond le mieux à tes besoins, et tu vas l'apprendre. Ça, c'est un besoin. Maintenant, autre chose, il y a une volonté. Quelqu'un, il dit, moi, ces vacances, je veux louer une Porsche. Il veut une Porsche. Maintenant, tu viens, tu dis, monsieur, on n'a pas une Porsche, on a une meilleure voiture qui vaut plus cher. Ça n'a pas démarré d'un besoin. Ça a démarré d'une volonté. Je veux une Porsche. Je veux aller ici. Je veux. Quand il s'agit d'une volonté, c'est ça qu'on va expliquer ici. Tu peux plus prioriser. Quand il s'agit d'un besoin, là tu peux dire, bon, écoute, tu as besoin, mais il y a des détails qui sont plus importants que d'autres. Regarde la fonctionnalité. Là tu peux dire, oui, bon, par rapport à ça, telle mitzvah est plus importante et plus fonctionnelle qu'une autre. Mais les mitzvot, quand on fait les mitzvot, on fait pas le besoin de Dieu, on fait la volonté de Dieu. Et qui parle de volonté dit que quand tu dis volonté, une personne il dit, c'est comme, bon, un exemple, hein, une femme a dit à son mari, il lui dit, va me faire les courses, je veux que tu m'achètes ça et ça. Pas j'ai besoin de ça, je veux que tu m'achètes ça et ça. Si tu l'as pas acheté les deux choses qu'elle te demandait, tu n'as pas fait sa volonté. Si elle te dit j'ai besoin de ça, tu dis bon, il n'y avait pas ça, j'ai pris ça.
Ma femme t'a parlé.
D'accord. Mais quand elle dit je veux ça, une envie de femme enceinte, je veux ça.
Ah, c'est autre
Tu ne l'amènes pas, tu ne l'as pas amené, c'est tout. Tu dis, j'ai trouvé quelque chose de similaire. Non, non, non.
Mais ça, c'est ce que je voulais.
Ça veut dire que dès là, on comprend quoi? Ce qu'on comprend, c'est que quand il s'agit de volonté, il n'y a plus. Quand il s'agit de volonté, quand j'ai 613 volontés simultanées, tu ne peux pas dire une est plus importante que l'autre, parce que tous rentrent dans la catégorie de volonté. Si c'est un besoin, là, tu peux te mettre à réfléchir, puis dire, bon, ça, c'est plus fonctionnel, c'est plus important. Ouais, c'est comme, voilà, je donne, tu loues une voiture, je dis, ouais, moi, je veux une voiture comme ça. On va dire, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va te donner différents détails. Toi, tu vas choisir par rapport à ce qui te paraît plus fonctionnel avec ton cerveau. Mais quand c'est une volonté, il n'y a pas lieu de mettre le cerveau. Et c'est ça ce qui dit le verset, je finis avec ça. C'est ça ce qui dit le verset, Vehayar Ekef Tishmeoui. Que les mitzvot qu'on est tenté de piétiner, parce que bon, c'est des mitzvot qui nous paraissent moins importantes que les autres. Et c'est vrai que logiquement, elles nous paraissent moins importantes. Viens la Torah te dit, rappelle-toi, sache, qu'il ne s'agit pas ici d'un besoin de Dieu. Dans ce cas-là, tu aurais pu dire, bon, il a besoin de 613 trucs, ça c'est plus important, après on paraîtra au moins important. Non, c'est pas des besoins, c'est des volontés. Donc puisque c'est une volonté, toutes les volontés ont la même importance. Pourquoi? Parce que quand on fait pas la volonté exactement comme on l'a demandé, eh ben, la volonté n'est pas faite. Je vais finir avec un autre exemple. C'est un exemple qui est revenu dans le Midrash. Le Midrash raconte, il dit, une fois, il y a eu un roi qui a demandé qu'on lui fasse une maison. Il avait une volonté d'avoir une maison, il n'avait pas besoin. Un palais. Il avait une volonté, il avait déjà tout ce qu'il faut, mais il voulait se faire construire un palais. Donc il a amené les architectes, les décorateurs, enfin tout ce que vous voulez, comme on les appelait à l'époque. Et il leur dit, voilà, je veux une maison positionnée ici, tant de chambres, comme ça. Il leur dit exactement comment il imaginait. Oui, exactement. Bon. Ensuite on a préparé sa maison. Et quand on a livré la maison, la peinture n'était pas de la même couleur que ce qu'il avait demandé. Bah, tu serais mal, la peinture. C'est rien. Ta maison, elle est là. Qu'est-ce que tu veux? T'as un palais.
À l'époque, c'était les tapisseries.
D'accord. Oui, tapisserie ou peinture. Non, elle a pas dit savoir. Bon. Non, c'était une peinture. Bon. C'était pas de la même couleur qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il dit la Balmidrash? Il dit, pour le roi, hein, c'est comme si qu'on n'a pas construit de palais. Pourquoi? Parce que ça démarre d'une volonté. Quand ça démarre d'un besoin, tu dis, bon, c'est pas grave, la peinture n'est pas la même couleur, mais par rapport à mon besoin, j'ai mon besoin, ça va. Il manque un petit détail, mais bon, la fonctionnalité est là. Mais quand c'est une volonté, je voulais ça, je l'ai pas eu, dehors.
C'est la limite du caprice.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on dit, c'est pour ça, c'est ce qui explique la différence aussi entre les enfants et les adultes. C'est que les enfants, leur cerveau n'est pas encore assez développé. D'accord? C'est la volonté qui est plus forte que... C'est vrai, 100%. Mmh. C'est qu'un enfant, par exemple, un enfant, quand il crie, et tu dis, tais-toi, vous croyez qu'il sait pas qu'il dérange tout le monde quand il crie? Hein? Vous croyez qu'il sait pas? La preuve, c'est qu'il sait se taire quand il faut. Il sait très bien. Sauf que quoi? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que sa volonté est plus forte que son cerveau. Et c'est ce qui se passe aussi quand une personne, quand Dieu préserve, quelqu'un nous énerve et
on explose.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La volonté est plus forte que le cerveau. On devient des enfants, des bébés. D'accord? La volonté est plus forte que le cerveau. C'est exactement, c'est du caprice. Sauf que là, c'est du bon caprice. C'est pour ça que, c'est ça ce que Rachid dit. Que les mitzvot qu'on est tenté. Les mitzvot qu'on est tenté de piétiner, c'est particulièrement ces mitzvot-là qu'il faut ordonner autant de points que les autres. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'un besoin de Dieu, il s'agit ici d'une volonté de Dieu. Et comme je dis, dans la volonté, même une couleur de peinture, ça casse tout. Donc, il faut accorder la même importance à chaque mitzvah, puisque chaque détail a son importance. Et ça fait partie de la volonté du roi.
De nos jours, une chose qu'on fait, malheureusement par erreur beaucoup d'entre nous, c'est qu'on tâche un petit peu moins d'importance aux mitzvot des Rabbanan par rapport aux mitzvot de la Torah.
Ouais, je pense que c'est un rapport.
C'est une volonté, je vais te demander.
De quoi?
Chachamim, c'est une volonté ou c'est un besoin? C'est les mitzvot des Chachamim, on doit les considérer comme des volontés ou les considérer...
C'est la Torah?
Non, la Torah nous a demandé d'écouter les Chachamim, c'est une mitzvah d'écouter les Chachamim.
Donc si c'est une volonté.
C'est une volonté.
La volonté d'Hachem à travers les Chachamim.
Comprenez, avec ça, le concept de volonté, on comprend beaucoup de choses, parce que par exemple, il y a des gens qui vous disent, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas moderniser certaines mitzvot? C'est vrai que si on suit la logique, ils ont raison. Par exemple, tu dis, ne pas aller à la synagogue en voiture Shabbat, parce que tu allumes du feu. Et, bon, écoute, peut-être à l'époque, le feu, ça représentait l'énergie, c'était fatigant, mais aujourd'hui, ça me fatigue moins de prendre la voiture que d'aller à pied. Alors, il faut faire un avenant à ta mitzvah. D'accord ? Encore une fois, c'est là la réponse. Si tu vois la mitzvah...
D'accord ?
Oui, monter aux étages en ascenseur, c'est plus fatigant, il y a un problème. Il y a un problème dans ton truc, faut l'adapter à...
Les minuteries, les plaques électriques, tout ça, c'est des aménagements.
Oui, c'est des aménagements sans toucher aux mitzvot. C'est des aménagements sans toucher aux mitzvot.
Sans toucher.
En changeant tout ça, on fait comme ils font les chrétiens.
D'accord ?
En changeant.
Ils ont pris une partie de la Torah et après...
Non, alors c'est là la... C'est là la réponse. La réponse c'est que tant que c'est une volonté, tant que c'est un besoin d'Akadosh Baruch Hu, là tu peux dire bon bah si c'est un besoin il faut l'adapter par rapport aux besoins de l'époque. D'accord ? Mais puisque tu dis que c'est pas un besoin, c'est une volonté, dans ce cas-là, bah ça reste comme c'est. Vous savez ce qu'il dit Tosfot ? Il y a un Tosfot qui dit au début du traité Shabbat, je finis avec ça. Il dit à propos de la mlacha, travail du Shabbat, on n'a pas le droit de faire sortir quelque chose du domaine privé au domaine public. Tosfot il dit ça c'est une mlacha groa. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il dit que ça, c'est un des 39 travaux qui est incompréhensible. Ceux qui posent la question, il dit, c'est une question très simple. Il dit, imagine-toi que je suis dans un domaine privé. Il fait 10 km. Je prends un objet très très lourd, je le porte, je fais 10 km. Est-ce que je fais une interdiction? Pas l'interdiction. Je prends une plume.
Je la sors
du domaine privé au domaine public, je fais une interdiction. Pas logique. Un problème. D'accord. Ça s'appelle mlacha groa. C'est comment il dit, c'est mlacha groa. C'est-à-dire c'est une mlacha qui est, enfin, mauvaise, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'est pas logique. C'est là qu'on voit que c'est des volontés. Tu comprends, le roi, il t'a demandé, je veux une peinture comme ça. Elle est moche, sa peinture, si tu veux. Mais il te l'a demandé une peinture comme ça. C'est sûr qu'elle est pas moche, la peinture de Dieu. Et ben, tu lui fais ce qu'il a demandé. Si tu fais pas exactement comme il a demandé,
je respecte pas les volontés.
Il dit, rentre chez toi, toi et ton palais, je le détruis, j'amène un autre. Voilà la différence entre besoin et volonté. Vaya et captif. Voilà, enfin.